Reflecting the fog of the seas, white waves. Waves as they roll, turning green. Sounding the helpless gray sand. Unbind my cries, unbind my eyes. Unbinding the cool green of trees, green waves.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, et c'est Jeudi Noir qui commence, en compagnie de Michel, mais c'est comme s'il n'était pas là, en compagnie surtout de Morane, qui va vous présenter plein de bouquins, et de moi-même, José, qui va vous présenter aussi des livres, puisque c'est une littéraire. Bon, on devait vous parler d'intelligence artificielle, puis Jean-Mathias n'a pas pu venir, alors... On va vous présenter des bouquins. Bon, vu la période actuelle, on aurait pu faire une analyse fine et tout à fait pertinente de la situation politique actuelle. Mais on s'est dit, je pense que vous savez, hein, voilà, hein, on va pas en rajouter. On va vous parler de bouquins un petit peu sympas, même si on va l'évoquer de temps en temps au travers de la littérature. Voilà. Bref, là vous venez d'entendre un super morceau de Norma Tanega qui s'appelait Waves, un morceau de 1966. Waves, ça veut dire en français les vagues, puisque le premier bouquin dont je vais vous parler s'appelle La vague montante. Vague, voilà. Un bouquin de Marion Zimmer Bradley. Marion Zimmer Bradley, c'est une autrice, c'était une autrice états-unienne qui a écrit ce bouquin-là, La vague montante, en 1955. Une traduction par Elisabeth von Harburg. Donc Elisabeth von Harburg, également une grande autrice de SF française qui est allée au Québec pour suivre sa carrière d'écrivaine, qui a écrit des bouquins assez sympas, surtout en fantasy. Mais c'est un autre sujet. Et donc ce bouquin de 1955 a été édité en français chez Le Passager Clandestin en 2013. Et ça raconte l'histoire d'un vaisseau spatial qui revient sur Terre. Il est parti il y a plus d'un siècle, genre 130 ans, parce que la Terre, c'était pas terrible, pas comme maintenant où c'est génial. Et il revient sur Terre quand même. Alors tous les autres vaisseaux sont dead, c'est le seul survivant, il revient. Mais les 130 ans, étant donné que Einstein, tout ça, égale MC2, le truc, la distance, le temps, tout ça, et ben en fait, ça fait 5 siècles qui sont passés en vrai. Parce que c'est quoi le théorème? Je ne sais plus. Mais en tout cas, ils reviennent genre 5 cycles après. Et là, ils s'attendent à voir une planète Terre méga technologique. Ils se disent, en 5 siècles, ça doit être que des IA partout, des robots et tout. Et non, ils sont étonnamment... Ils atterrissent dans une contrée assez bucolique, champêtre et complètement rurale. Donc là, les êtres humains vivent à la campagne avec... Il n'y a plus d'État, il n'y a plus de nation, ils sont plutôt dans l'autogestion. On est presque dans une utopie communiste, ou en tout cas une utopie rurale, autogestionnaire, etc. Très, très méfiante envers la technologie. Il y a Michel qui ne va rien dire et qui ne fait que des commentaires dans mon dos.
On est en train de déconcentrer José, c'est fait exprès, parce qu'à cause de la puissance de son organe, il déréglait tout et c'était inaudible. Et donc, il a fallu que je baisse le volume.
Et donc voilà, en tout cas, on se retrouve avec des gens qui venaient d'une planète Terre et qui espéraient se retrouver dans un monde hyper technologique et se retrouvent dans un monde rural, qui a l'air un petit peu utopique, mais ça serait pas drôle. Ils vont se rendre compte que non, en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc voilà, je vous laisse lire « La vague montante » de Marion Zimmer Bradley. Si vous voulez lire « L'esprit tranquille », ne lisez pas la biographie ou la fiche wiki de cette autrice, parce que c'est quand même une grosse crevure. Donc, c'est un euphémisme. Et je l'ai appris, en fait, avant de chroniquer le bouquin, juste avant. Je ne savais pas, sinon, évidemment, cancel, wokisme et tout ça. Bref, le bouquin est vraiment chouette, paru en 1955, avant toutes ces histoires dont je ne vous parle pas. Et on va vous laisser avec un autre morceau.
Waves that cover the land and wash the white. J'ai placé tous mes liens, je vais les faire fructifier.
D'entendre un morceau des Slugs qui s'appelle Le Banquier, c'est un groupe belge. Et moi, donc, je vais vous parler d'un livre de Fernando Pessoa qui s'appelle Le banquier anarchiste. Donc, Fernando Pessoa, c'est un auteur portugais. Ce livre a été écrit en 1922 et il parle d'anarchisme, des conceptions de l'anarchisme, de comment on peut mettre en place un mode de vie, un mode d'action anarchiste. Et en fait, c'est un livre très court qui fait moins d'une centaine de pages et qui met en scène un dialogue socratique entre un banquier et un militant anarchiste qui serait plutôt idéaliste. Et ce livre, en fait, plutôt un brûlot, en fait, qui est très bien écrit, qui est assez incisif sur les questions qu'il pose. Et donc, voilà, qui parle d'anarchie, de comment, quelle forme doit prendre l'action politique. Est-ce qu'une société basée sur l'anarchisme est possible et envisageable? Il évoque aussi le rôle de l'argent dans notre vie. Et donc, en fait, on a un banquier qui se dit anarchiste et qui développe toute une rhétorique assez bien menée, en fait, pour montrer, en fait, que être banquier et anarchiste, c'est compatible. Et c'est un peu une discussion qui se base sur un raisonnement par l'absurde. Et voilà, qui est très bien dans le sens où ça se lit très bien, ça se lit vite, ça se lit facilement. C'est un livre qui interroge, qui bouscule pas mal de nos conceptions et qui pose des questions encore très actuelles sur quelle conception, quel rapport à l'argent adopter, quel rapport à la politique, est-ce que le changement doit être radical, progressif, etc. Et donc José, lui, va vous parler d'une mise à jour un peu de ce livre. Qui s'appelle Le Testament du banquier anarchiste.
Alors devinez quoi, je vais vous parler du Testament du banquier anarchiste, incroyable hein. Donc en fait c'est une sorte de suite, mais écrite en 2020, parue aux éditions Libertalia. On parle un peu trop de Libertalia depuis que Morane est arrivé, je trouve, dans Jeudi Noir. Donc écrit par Adeline Baldacchino et Édouard Jourdain. S'appelle donc Le Testament du banquier anarchiste et ça se passe en 2020, donc l'année de parution du bouquin. On a un petit couple, un homme, une femme, jeune, plutôt intello, qui sont à la terrasse d'un café dans un quartier chic parisien. Voilà, un petit bouquin sur la table et là à côté il y a un pépé. Et le pépé regarde leur bouquin et « Ah, mais qu'est-ce que vous lisez ? Vous lisez du Pessoa, ça alors ?» Et ils se rendent compte que ce pépé à côté, c'est le banquier anarchiste de Fernando Pessoa, c'est lui. Alors, si c'est vraiment lui, il a plus de 130 ans quand même. Hein. Mais il décide de se voir une fois par jour à la terrasse de ce café, de parler de différents thèmes concernant l'anarchisme. Parce qu'au départ, être un banquier anarchiste, c'est surtout être un individualiste, un libertarianisme, on va dire, hein, ce qu'on appelle les comment ils s'appellent, anarcho-capitaliste, enfin voilà, donc c'est pas vraiment des anarchistes. Mais il est bien roublard ce banquier anarchiste, parce qu'il parle vraiment d'anarchisme quand même en étant un gros capitaliste, parce que Pessoa est pas la moitié d'une tanche, donc son argumentaire, même s'il est de mauvaise foi, il donne des choses vraiment intéressantes. Et là, on se retrouve avec un petit bouquin qui est très très bien fait, puisque c'est quelque chose qui nous permet d'aborder un nombre de thèmes, des dizaines de thèmes en quelques dizaines de pages. C'est surtout un bouquin qui permet, moi je l'offrirais plutôt à un jeune, un ado ou quelqu'un qui n'est pas trop politisé et qui commence à s'intéresser à l'anarchisme, puisqu'il y a plein de thèmes qui sont évoqués sous l'apparence d'un dialogue. Il y a l'égoïsme, l'individualisme, Orwell, beaucoup, ça parle beaucoup d'Orwell, la propriété, les différentes sortes de modalités de la démocratie, un tirage au sort, représentativité, le vote, la révolution, la violence, l'État, l'ordre, l'athéisme. Ça parle de Macno, ça parle de Proudhon, ça parle de la guerre d'Espagne pas mal, de Rousseau, il y a pas mal de références philo, Kropotkin et l'entraîne, ça parle de Nietzsche, ça évoque Debord, le municipalisme, la pureté politique, beaucoup, beaucoup de choses. Et là, c'est vraiment qu'une petite liste. Donc, en quelques dizaines de pages, ça aborde tellement de thèmes avec des choses vraiment un peu bancales. Mais en même temps, c'est fait exprès puisque c'est un banquier anarchiste qui essaye de justifier de son anarchisme alors que c'est un banquier. Voilà. Donc, ce bouquin s'appelle « Le Testament du banquier anarchiste par Adeline Baldacchino et Édouard Jourdain chez Libertaria en 2020.
Alto Gachi, la société protectrice des objets, la SPO, veille.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. C'est toujours Jeudi Noir. On vous présente des bouquins avec Morane et Michel qui parlent derrière pour nous perturber. Donc là, bah, un morceau quand même de Radio Dictate, un groupe mythique, un duo mythique avec des voix, quoi. Mais quelle voix! Le morceau Mange ta soupe qui date de 2020, avec au départ de ce morceau un petit sample tiré d'un téléfilm. Et le téléfilm s'appelle Les Lutteurs Immobiles. C'était un téléfilm sorti, je regarde mes notes, en 88. Voilà, un film avec Bernard-Pierre Donadieu, un téléfilm que j'ai trouvé vraiment chouette. Alors, le deuxième chanteur du groupe n'aime pas ce téléfilm-là, mais moi je l'adore. Bref, il est trouvable sur YouTube, je crois. Et c'est tiré d'un bouquin, donc, puisqu'on parle de bouquin et pas de téléfilm des années 80, un bouquin de Serge Brussolo, donc cet auteur hyper, comment on dit, quelqu'un qui écrit beaucoup. Il est prolifique, merci, l'adjectif me manquait. Michel sert à quelque chose aujourd'hui. Donc un auteur hyper prolifique, Serge Brussolo, à la fois en para-histoire, en fantasy, en polar et en SF. Et là, on se retrouve avec Les Lutteurs Immobiles, un bouquin donc écrit en 83, sorti chez Fleuve Noir, collection Anticipation, la classique, avec une SPO, la Société Protectrice des Objets. Et donc, on se retrouve devant une satire vraiment énorme, à la fois drôle et vraiment inquiétante, où les objets, où l'écologie prend tellement de place que casser un objet, ça devient un crime. Alors au début, petit à petit, on commence à dire « il faut recycler ». Et puis, il ne faut pas que recycler, il faut aussi que les objets aient un statut. Et on commence à donner un statut social aux objets. Et dès qu'on casse en fait une tasse, par exemple, on laisse tomber sa tasse de café et on la casse. Et là, c'est un crime, puisqu'en fait, cet objet devient une personne morale qui finit par avoir plus d'importance qu'un être humain. Et je ne vous raconte pas tout parce que c'est assez effrayant, mais quand on casse un objet, il vous arrive vraiment des bricoles. C'est waouh, c'est du Serge Brussolo, donc il y a beaucoup d'imagination hein, pour les connaisseuses de l'auteur. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça. C'est parodique et c'est un peu exagéré, mais il y a plein de petites réflexions sympas tout du long de ce bouquin. Donc Les Lutteurs Immobiles de Serge Brussolo, 1983, et le téléfilm de 88 avec Bernard Pierre Donadieu. Je vous conseille tout ça. On va essayer de mettre un morceau de musique de hippie, puisque je crois qu'on a des auditeurs qui sont un petit peu hippie. On va voir ça. Guinevere of the Royal Court of Arthur, draped in white velvet, silken lace. The rustle of her gown on the marble staircase sparkles on fingers slender and pale. The jester, he sleeps, but the raven, he peeps through the dark foreboding skies of the royal domain. Maroon-colored wine from the vineyards of Chardonnay is sipped by the queen's lip and so gently. Indigo eyes in the flickering candlelight, such is the silence of royal Camelot. The jester, he sleeps, but the raven, he peeps through the dark foreboding skies o'er the royal domain. The sound of her gown on the marble staircase sparkles on fingers both slender and pale. The jester, he sleeps, but the raven, he peeps through the dark foreboding skies o'er the royal domain.
Nous venons d'entendre un titre de Donovan qui s'appelle Guinevere, qui date donc de 1966. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va parler d'un livre qui s'appelle La Défense de Guenièvre, qui est publié en 2021 chez Libertalia. Alors, La Défense de Guenièvre, en réalité, c'est un poème qui date de 1858 et qui a été écrit par William Morris. Donc là, le livre que je tiens dans mes mains, c'est un petit livre d'une soixantaine de pages donc qui présente ce poème-là. Et en fait, la moitié du livre est écrite par un historien qui s'appelle William Blanc et qui recontextualise un peu tout le contexte d'écriture, de publication et de réception aussi de ce poème écrit par William Morris. Alors, c'est un livre qui est intéressant parce qu'en fait, donc le poème date de 1858. Morris est anglais, donc c'est un poème qui a été écrit dans l'Angleterre victorienne, donc très puritaine. Et c'est un poème qui donne la parole, en fait, à Guenièvre. Donc, Guenièvre, la femme d'Arthur. Et plus précisément, ce poème se place au moment du procès de Guenièvre. Procès pour infidélité, en fait, parce que Guenièvre a été infidèle à Arthur, puisqu'elle l'a trompé avec le beau Lancelot du Lac.
Lancelot
et voilà, et donc en fait, c'est donc rien que ça, le fait que ce poème donne la parole aux femmes et que en fait, c'est un poème qui défend l'amour libre. On peut dire ça comme ça dans son... Enfin, vous lirez, vous verrez. Dans le poème, c'est vraiment ça. Donc, c'est une défense de Guenièvre qui met en avant la façon dont les femmes sont traitées à cette époque-là, en fait. Qui défend une vision... qui se défend, en fait, d'une vision... du mythe arthurien qui prévalait un peu à l'époque où Maurice écrit, qui est un mythe arthurien qui défend un peu finalement la société patriarcale, l'héroïsme, le puritanisme des valeurs, etc. Et donc, voilà, notamment il y a un auteur qui s'appelle Thomas Malory qui avait écrit un livre sur Arthur en 1469, qui va ensuite inspirer Maurice sur la défense de Guenièvre, qui va mettre donc en avant la façon dont Arthur la traite mal, le peu d'amour qu'il lui accorde et la façon dont Lancelot est tellement plus beau, tellement plus tout, quoi.
Lancelot.
Voilà.
C'est tout ? On écoute de la musique alors ?
Allez, c'est parti.
Boys don't cry. Boys don't cry.
Vous êtes sur 89.4, c'est Radio Libertaire, bah oui, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité, mais avec des livres, puisque vous êtes sur Jeudi Noir. Donc là, on vient d'écouter Robert Smith, donc The Cure, avec Garçons ne pleurent pas, Les garçons ne pleurent pas, Boys Don't Cry, un morceau de 1980. Même un tout petit peu trop vieux, même pour Michel, qui est plus 92, mais ça passe. Pourquoi Boys Don't Cry? Parce que le livre dont je vais vous parler s'appelle Boys Don't Cry. Voilà. Écrit par Mallory Blackman. Alors j'étais juste avant de prendre l'antenne, je me demandais pourquoi j'avais lu ce livre. C'est pas vraiment dans les livres que j'ai l'habitude de chroniquer ici. Et je n'ai plus aucun souvenir de pourquoi ce livre m'est tombé sous les yeux et que je l'ai lu. Parce que déjà c'est pas de la SF. C'est un livre plutôt young adulte. Et un peu psycho et un peu intime et un peu perso, donc pas vraiment les bouquins que je chronique d'habitude. En tout cas, voilà, Mallory Blackman, c'est une autrice britannique née en 62, pour vous situer la contemporanéité de l'autrice. Et ça raconte l'histoire d'un ado, enfin un gamin de 17 ans qui s'appelle Dante, et qui attend les résultats de son admission à Parcoursup, hein, à la fac anglaise, donc Parcoursup, voilà, à la fac, University. Et là, on sonne à la porte, il s'est dit, ah, c'est le livreur de télégrammes, puisqu'on est en 2010, pardon. Et non, c'est son ex petit ami, qui arrive avec, dans les mains, non pas un télégramme, mais un bébé. Et ce bébé, c'est le sien aussi. Vous voyez le truc. Et elle, bah, elle ne sent pas trop maman, donc bah, elle lui laisse. Voilà, elle lui laisse le bébé. Et donc le gamin de 17 ans se retrouve avec un bébé. Et bah, il va faire avec. Et c'est ce bouquin-là que j'ai lu. Je n'en reviens pas, mais je l'ai lu. Et je le chronique aujourd'hui. Et c'est un bouquin, finalement, en revenant un peu dessus, parce que je l'avais un petit peu oublié, je me rends compte que c'est un bouquin assez particulier quand même, parce que c'est écrit par une femme. Déjà, et c'est un livre qui parle d'hommes, ce qui est assez rare, une sorte de... c'est pas Rivers Bechdel du tout, mais en tout cas c'est assez intéressant comme point de vue, puisque on a en personnage Dante, donc ce gamin de 17 ans qui se retrouve père et qui se retrouve à abandonner tous ses espoirs d'études, etc., parce que bébé, ça prend un petit peu de temps quand même. Son frère, donc son petit frère qui est homo et qui subit des choses pas super sympas à l'école, de harcèlement et tout ça. Un personnage très très touchant d'ailleurs, le frangin. C'est un personnage très développé d'ailleurs, presque plus développé que le personnage qui se veut principal. Le papa qui est veuf, donc on se retrouve dans un univers très très masculin, mais que des hommes qui sont dans des situations de fragilité un petit peu sur le fil, sans faire des victimes ni en train de pleurer sur leur épaule en disant c'est dur d'être un homme. C'est écrit par une femme plutôt fine, qui a écrit pas mal de bouquins à destination des enfants et des adolescents. Donc c'est un bouquin qu'on peut, je pense, conseiller aussi à un jeune public qui pourrait se reconnaître dans ce genre de problématiques. Voilà. En tout cas, c'était un bouquin que je ne regrette pas d'avoir lu, qui s'appelle « Boys Don't Cry » par Mallory Blackman.
Yeah. génération. Plus de rejet dans la télévision. Rien qui fonctionne, le consommateur. Un problème de plus pour le courrier du cœur. Et je rêve devant les affiches. Possession, je veux devenir riche. Pour aller flirter au supermarché. Tout acheter, ce qui me plaît. Tout en haut d'un building illuminé. Le bonheur est sur terre, il suffit de l'acheter. Et je dis merci à Manoudova.
Vous venez d'entendre un morceau du groupe légendaire Les Cadavres, donc morceau qui s'intitule Une existence saine, de l'album éponyme qui date de 1989. Groupe dont l'un des membres imminent, Philippe Vérol, va nous offrir une parfaite transition pour le livre que je vais vous présenter, puisqu'il s'agit du livre Le lecteur de cadavres. Donc c'est un livre qui date de 2014, qui a été écrit par un auteur espagnol, Antonio Garrido, qui a été édité à l'édition Livre de Poche. Alors c'est un livre qui est, contrairement aux autres, qui est un pavé, qui fait plus de 700 pages en fait. Et il s'agit d'un roman policier historique, on pourrait dire ça. Alors en fait c'est l'histoire d'un personnage qui s'inspire d'un personnage réel, puisqu'il s'agit de l'histoire du premier médecin légiste de la Chine impériale au XIIIe siècle. Donc en fait on suit tout le long du livre l'histoire de Chi Song, un jeune d'origine modeste, puisqu'il est en fait d'origine paysanne, qui va subir tout un tas de coups durs. Le livre est assez sombre en fait, hein, et le sort semble s'acharner sur lui. C'est un livre assez, assez violent à ce niveau-là. Et donc après la mort de ses parents, l'incendie de sa maison et l'arrestation de son frère, il est obligé de fuir le village avec sa petite sœur malade. Donc il va effectuer un long et périlleux voyage qui le conduit à Linan, la capitale de l'Empire, où il va devenir en fait fossoyeur. Et on va lui découvrir une habileté, un don particulier pour justement pour lire les cadavres, d'où le titre Le lecteur de cadavres. Et pour déceler en fait les causes de leur mort. Donc ces exploits lui permettent ensuite d'intégrer une prestigieuse académie qui est l'académie Ming, et il devient très vite en fait l'élève le plus brillant de l'école. L'écho de ses exploits arrive aux oreilles de l'empereur, qui lui propose un deal. Plusieurs meurtres en fait non élucidés qui suivent plus ou moins le même schéma sont donc irrésolus, et on lui propose d'enquêter là-dessus, et s'il réussit c'est la consécration, s'il échoue c'est la mort. Voilà. Donc ce livre il est vraiment captivant, et ce qui fait son intérêt je trouve c'est qu'en fait l'auteur est très très bien documenté sur la vie en Chine impériale au XIIIe siècle, et donc on voit très bien tout le quotidien dans les repas, dans les relations familiales, dans les rapports hiérarchiques, etc. C'est hyper bien documenté, et donc il y a toute une partie du livre qui est un énorme glossaire. C'est peut-être ça un peu le point négatif, c'est qu'il faut souvent faire des allers-retours entre le livre en lui-même et le glossaire. Mais voilà, c'est un livre génial, on s'ennuie pas et on apprend beaucoup beaucoup de choses sur presque de la micro-histoire en fait de cette époque-là.
Il s'appelait comment déjà ?
Le lecteur de cadavres.
De qui ?
Antonio Garrido, je crois. Et la musique, c'était Les Cadavres.
Vous venez d'écouter sur Radio Libertaire 89.4 l'émission Jeudi Noir. Vous venez d'écouter un morceau de Symphonique Élégance. C'est un groupe suédois. Le morceau date de 1983, et oui, toujours années 80. Et le morceau s'appelait donc Life in the Future, la vie dans l'avenir, dans le futur. Voilà. Pour vous présenter un bouquin qui n'est pas du tout suédois, et qui est plutôt dans le passé, puisqu'il a été publié en 2013, de Sylvie Lainé, une super autrice de SF qui a surtout publié des nouvelles. Et là, donc, c'est un recueil de nouvelles qui s'étale de 1985, encore années 80, rapport machin, jusqu'à 2008. Et c'est 6 nouvelles parues chez Actu SF. Et on a une préface de encore quelqu'un de connu hein, qu'on a chroniqué ici, Catherine Dufour, encore une grande autrice de SF locale. Donc ces 6 nouvelles, bah, je ne vais pas vous raconter les 6 nouvelles parce que déjà c'est des nouvelles, alors dès qu'on raconte, voilà, hein, je ne fais pas de... Voilà. Mais juste pour vous donner un petit peu envie de le lire parce que c'est vraiment une excellente autrice, Sylvie Lainé. On a la première nouvelle par exemple, qui date de 85, qui s'appelle Carte Blanche. Et donc bah, y a une arche spatiale, hein, en gros, je ne sais plus, un vaisseau spatial qui doit contenir genre 150 000 voyageurs, voyageuses qui quittent la Terre pour je ne sais plus quelle raison. Mais en tout cas, eh ben, ils ont un petit peu peur de s'ennuyer sur ce vaisseau spatial, donc ils décident que leur vie serait régie par des cartes. Et tous les matins, ou toutes les semaines, je ne sais plus, tous les 10 jours, ils ont une imprimante au pied de leur lit qui imprime 5 cartes, me semble-t-il, avec des instructions, ce qu'ils doivent faire dans la journée. Par exemple, bah, quitter machin, changer de métier, aller faire un tour au parc. Et ça leur dit quoi faire. Tout ça pour éviter la routine. Voilà, ça leur indique des conduites à tenir. Je ne vous en dis pas plus, puisque évidemment, c'est très intéressant ce qui se passe après. On a les 5 autres nouvelles. Bon, bah, on va aborder plein de thématiques de SF plus ou moins classique, mais toujours de manière très fine, très intelligente et hyper agréable. L'écriture de Sylvie Lainé, c'est vraiment un plaisir. Donc on a la reproduction interespèce qui est abordée. Une nouvelle assez rigolote où on essaye d'embrouiller l'intelligence artificielle d'un vaisseau, essayer de l'arnaquer. C'est croquignolet, comme dirait Michel dans son langage fleuri. On aborde également une société qui n'a jamais peur, mais qui n'a pas non plus de souvenirs. On enquête aussi sur la mort d'une planète. Que s'est-il passé? On parle de clonage humain. Voilà, plein de thèmes qui sont assez classiques, plus ou moins classiques en tout cas en SF, qui sont abordés de manière hyper fine. Donc moi, je vous conseille Les Espaces Insécables de Sylvie Lainé chez ActuSF en 2013. Ça doit être trouvable d'occasion. Peut-être que c'est réédité, je ne sais pas. Voilà.
Entendre un morceau du groupe américain MDC qui s'intitule Born to Die, No Trump, No KKK. Parce que justement, on va vous présenter un livre de Timothy Snyder qui s'appelle De la tyrannie, 20 leçons du 20e siècle. Donc, le livre dont je vais vous parler, moi, en fait, c'est une bande dessinée qui est publiée chez Gallimard Bande Dessinée. Mais qui est une adaptation en fait de l'essai écrit par Snyder qui a été publié lui en 2017, tandis que la bande dessinée a été publiée en 2022. Donc c'est un livre qui a été écrit au lendemain de l'élection de Donald Trump et qui se présente comme un espèce de guide de résistance assez pragmatique en fait, qui dans l'optique en fait de préserver les libertés dans les années à venir, aujourd'hui, demain. Et en fait, Snyder propose 20 principes, 20 grands principes. Qui permettrait d'atteindre cet objectif, donc de préserver les libertés. Et pour faire ça, en fait, il s'appuie sur des penseurs et penseuses de l'histoire, en fait, de l'Europe du XXe siècle, parce que Snyder est un historien spécialiste de l'Europe de l'Est et de la Shoah. Donc, tout au long du livre, il va convoquer des auteurs comme Camus, comme Arendt, comme Orwell aussi, et comme Kundera aussi, et il va s'appuyer sur leurs pensées pour proposer donc ces grands principes. C'est un livre qui semble assez pragmatique, assez utile, que moi je recommande très fort. Et puis là, surtout, la version bande dessinée est absolument sublime. Elle est illustrée par Nora Krug. Et donc, la conceptualisation, les dessins, la mise en page, il y a des espèces de montage aussi. Vraiment, la bande dessinée est absolument sublime et le fond est pertinent. Je peux peut-être vous lire.
Un extrait.
Alors, les 20 principes. les 20 principes qu'il met en avant, qui peuvent paraître peut-être un peu simplets comme ça, mais qu'il défend, je trouve, vraiment très bien, en fait, dans son livre. Et dont certains ne sont pas étrangers à Jeudi Noir, si je ne me trompe pas. Donc le premier principe, c'est ne pas obéir à l'avance. Le deuxième, défendre les institutions. Prendre garde à l'état de parti unique, se sentir responsable du monde. Se souvenir de l'éthique professionnelle. Alors ça, c'est pour José, quoi. Se méfier des paramilitaires. Et réfléchir avant de s'armer, se distinguer. Prendre soin de notre langage, donc les mots sont importants, tout ça. Croire à la vérité, voilà, affirmer qu'il y a une vérité, qu'il existe une vérité. Bon, il détaille vraiment ça sur plein de principes de manière très claire et c'est vraiment très bien fait. Examiner, regarder dans les yeux et engager la conversation. Pratiquer la politique corporelle, ça vous verrez ce que c'est. Affermir sa vie privée, contribuer aux bonnes causes, apprendre de ses pairs dans les autres pays. Être attentif aux mots dangereux, rester calme quand survient l'impensable, être patriote, pareil, je vous laisse découvrir ça, bon, il est américain, hein. Il y a une vision qui est un peu particulière pour nous, lecteurs européens. Et dernier point, être aussi courageux que possible. Voilà. Donc ça paraît simplé, mais vraiment, le visuel est magnifique et le fond est vraiment très efficace. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande, qui serait bien à voir dans les CDI des lycées, des collèges, etc.
Voilà. Tu peux redire le titre.
Et le titre, donc, c'est De la tyrannie, 20 leçons du XXe siècle.
ガチャンと最初の音でも足元に転がる石。
Jeudi noir sur Radio Liberté 89.4. Alors on finit donc avec les japonaises du groupe Mizutama Shobodan, un morceau de 1985, encore années 80, Welcome to Dreamland. Dreamland, puisque le morceau, le bouquin dont je vais vous parler s'appelle Les agents de Dreamland. Et ouais, trop fort. Écrit par Caitlin R. Kiernan, donc une autrice dont je ne sais rien. Sauf que elle a écrit ce bouquin en 2017 et ça a été publié au Bélial, super édition du Bélial, en 2020, dans la collection, super collection, Une Heure Lumière, avec des novellas, des bouquins qui se lisent en à peine une heure lumière. Voilà, j'en ai chroniqué pas mal ici. Je l'ai lu hier, celui-là. L'autrice est irlandaise, née en 64, pareil, hein, pour situer. Elle est paléontologue, donc j'en sais un petit peu quand même. Elle a travaillé avec Neil Gaiman, un de nos petits chouchous ici quand même, hein, n'est-ce pas Michel? Elle a été scénariste de comics, c'est chez DC je crois, hein, comme Neil Gaiman. C'est le premier roman d'une trilogie qui s'appelle Les Tinfoil Dossiers. J'ai pas lu les deux autres, donc je verrai. Et c'est un... Alors quand on commence ce bouquin-là, on est dans le roman noir plutôt, avec l'histoire d'agents secrets. Et petit à petit, on a un petit peu du fantastique, et puis de l'ASF, jusqu'à de l'horreur. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, c'est une suite d'une nouvelle de Lovecraft, intitulée Celui qui chuchotait dans les ténèbres. Donc encore une fois, c'est pas la première fois ni la dernière qu'on va vous parler de Lovecraft ici, parce qu'il a influencé tellement de monde. Donc ce bouquin, Caitlin R. Kiernan, Les agents de Dreamland, si vous voulez du néo-Lovecraft, superbement écrit et un roman court mais un peu puzzle, super intriguant, on vous conseille Les agents de Dreamland. On se revoit dans 15 jours pour parler d'autre chose, j'espère. Voilà, bisous. Vous dites bisous pendant que je mets le morceau.
Bisous.
Bisous.
Baby has got a little black pearl.